George Sand, le poème de Mirza. Durant les 4 ou 5 siècles au milieu desquels est jeté le grand événement de la vie du Christ, l'intelligence humaine fut en proie aux douleurs et aux déchirements de l'enfantement. Les hommes supérieurs de la civilisation, sentant la nécessité d'un renouvellement total dans les idées et dans la conduite des nations, furent éclairés de ces lueurs divines dont Jésus fut le centre et le foyer. Les sectes se formèrent autour de sa courte et sublime apparition comme des rayons plus ou moins chauds de son astre. Il y eut des Karaïtes, des Sadducéens et des Esséniens, des Manichéens et des Gnostiques, des Épicuriens, des Stoïciens et des Cyniques, des philosophes et des prophètes, des devins et des astrologues, des solitaires et des martyrs. Les uns partant du spiritualisme de Jésus comme Origène et Manès, les autres essayant d'y aller sur les pas de Platon et de Pythagore. Tous escortant l'Évangile, soit devant, soit derrière, et travaillant par leur dévouement ou leur résistance à consolider son triomphe. Dans cette confusion de croyances, dans ce conflit de rêves, de travaux fiévreux de la pensée, de divination maladive et de vertige sublime, une nouvelle forme fut donnée à certains esprits. Une forme agréable et élastique, qui seule convenait aux esprits éclairés et au caractère facile. Cette disposition de l'esprit humain, qui domine dans tous les temps de dépravation et chez toutes les nations très civilisées, nous l'appellerons, pour nous servir d'une expression moderne, éclectisme. Quoique cette dénomination n'ait pas eu dans tout temps le même sens, nous nous en tenons à celui qu'elle implique aujourd'hui pour qualifier la situation morale des hommes qui n'appartenaient à aucune religion au temps dont il est question ici. Parmi ces éclectiques, on vit des hommes d'un caractère et d'un esprit tout opposés, des hommes graves et des hommes frivoles, des savants et des femmes. Car cette doctrine qui consistait dans l'absence de toute règle accueillit toutes sortes de pédantisme et toutes sortes de poésie. Les rhéteurs s'y remplissaient l'estomac d'arguments et les poètes s'y gonflaient le cerveau de métaphores. L'Inde et la Chaldée, Homère et Moïse, tout était bon à ces esprits avides et curieux de nouveautés, indifférents en face des solutions, heureux caractère, qui, Dieu merci, fleurirent toujours ici-bas au milieu de nos lourdes polémiques. Grandiseurs de sentences, sincères admirateurs de la vertu et de la foi, le tout par amour du beau et par estime de la sagesse, vrais épicuriens dans la pratique de la vie, prophètes élégants et joyeux, bardes demi-bibliques et demi-païens, intelligence saisissante, fine, éclairée, pleine de crédulité poétique et de scepticisme modeste. En un mot, ce que sont aujourd'hui nos véritables artistes. Le petit poème qu'on va lire fut récité en vers hébraïques sous un portique de Césarée par une femme nommée Mirza, laquelle était une des prophétesses de ce temps-là, espèce mixte entre la bohémienne et la sibylle, poète en jupon, comme il en existe encore, mais d'un caractère hardi et tranché qui s'est perdu dans le monde, aventurière sans patrie, sans famille et sans Dieu, grande liseuse de romans et de psaumes, initiée successivement par ses amants et ses confesseurs aux diverses religions qui s'arrachaient lambeau par lambeau l'empire de l'esprit humain. Cette femme était belle, quoique n'appartenant plus à la première jeunesse. Elle jouait habilement le luth et la cithare, et, changeant de rythme, de croyance et de langage, selon les pays qu'elle parcourait, elle traversait les querelles philosophiques et religieuses de son siècle, semant partout quelques fleurs de poésie, et laissant sur ses traces un étrange parfum d'amour, de sainteté et de folie. Bonne personne du reste, que les princes faisaient asseoir par curiosité à leur table et que le peuple écoutait avec admiration sur la place publique. Voici son poème, tel que, de traduction en traduction, il a pu arriver jusqu'à nous. Nous osons parfaitement le livrer aux savants, aux poètes et aux chrétiens de ce temps-ci, sachant le bon marché que notre siècle panthéiste fait de toutes choses et la complaisance que son ennui lui inspire pour toutes sortes de rêves. Chapitre 1. En ce temps-là, longtemps avant le commencement des jours que les hommes ont essayé de compter, Dieu appela devant lui quatre esprits qui parcouraient d'un vol capricieux les plaines de l'espace. « Allez, leur dit-il, prenez-vous par la main, marchez ensemble et travaillez de concert. » Ils obéirent et ne se quittant plus, présidèrent chacun à une des œuvres de Dieu. Et un nouvel astre parut dans les terres. Cet astre est la terre que nous habitons aujourd'hui, et ces quatre esprits sont les éléments qui la composent. Mais deux de ces esprits, se sentant plus puissants, firent la guerre aux deux autres. L'eau et le feu ravagèrent la terre, et l'air fut tantôt infecté des vapeurs humides des marais, et tantôt embrasé des feux d'un soleil dévorant. Et pendant un nombre de siècles, que l'homme ne sait pas, mais qui sont dans l'éternité de Dieu moins qu'une heure dans la vie de l'homme, notre globe bondit dans l'immensité comme une cavale sauvage, sans guide et sans frein. Sa course ne fut réglée que par les caprices des esprits à qui Dieu l'avait abandonné. Tantôt, emporté d'un essor fougueux, il s'approcha du soleil jusqu'à s'y brûler. Tantôt, il s'endormit, languissant et morne, loin des rayons vivifiants que chaque printemps nous ramène. Il y eut des jours d'une année et des nuits d'un siècle. Le globe, n'ayant pas encore arrêté sa forme, les froides régions qu'habitent le Calédonien et le Scandinave furent calcinées par des étés brûlants. Les contrées où la chaleur bronze les hommes se couvrirent de glaciers incommensurables. L'esprit du feu descendit dans le sein de la terre. On eût dit qu'un démon enfonçait ses ongles et ses dents dans les entrailles du globe. Des rugissements sourds s'échappaient des rochers ébranlés, et la terre s'agitait comme une femme dans les convulsions de l'enfantement. Quelquefois, le monstre, en se retournant dans le ventre de sa mère, sapait les fondements d'une montagne et creusait sous les vallées des voûtes sans appui. La montagne et la vallée disparaissaient ensemble et des lacs de bitume s'étendaient en bouillonnant sur les débris amoncelés. Une fumée âcre et fétide empoisonnait l'atmosphère. Les plantes se desséchaient et l'eau, appelée par le feu, ravageait à son tour le flanc déchiré de sa sœur. Enfin, le feu s'ouvrit un passage à travers le roc et l'argile et se répandit en dehors comme un fleuve débordé. La mer, brisant ses digues de la veille, fit chaque jour de nouvelles invasions, et chaque jour déserta ses nouveaux rivages comme un lit trop étroit. On voyait dans l'espace d'une nuit s'élever des montagnes de fange ou de cendres que le soleil et le vent façonnaient à leur gré. Des ravins se creusaient, telle que la vie d'un homme voyageant le jour et la nuit n'eût pas suffi pour en trouver le fond. Des météores gigantesques erraient sur les eaux comme des soleils détachés de la voûte céleste, et les vagues de l'océan roulaient sur les sommets que les nuages enveloppent aujourd'hui bien loin au-dessus de la demeure des hommes. Dans cette lutte, la terre et l'eau, jalouses l'une de l'autre, se mirent à créer des plantes et des animaux qui, à leur tour, se firent la guerre entre eux. Des lianes immenses essayèrent d'arrêter le cours des fleuves, mais les fleuves enfantèrent des polypes monstrueux qui saisirent les lianes dans leurs bras vivants. Et leur étreinte fut telle que des myriades de races d'animaux s'y arrêtèrent et y périrent. Et de tous ces débris se forma le sol que nous foulons aujourd'hui et sous lequel a disparu l'ancien monde. Cependant, à toutes ces existences d'un jour succédaient d'autres existences. Les races se perdaient et se renouvelaient. La matière inépuisable se reproduisait sous mille formes. Du sein des mers sortaient les baleines semblables à des îles et les léviathans hideux rampant sur le sable avec des crocodiles de 20 brasses. Nul ne sait le nombre et la forme des espèces tombées en poussière. L'imagination de l'homme ne saurait les reconstruire. Si elle le pouvait, l'homme mourrait d'épouvante à la seule idée de les voir. L'abeille fut peut-être la sœur de l'éléphant. Peut-être une race d'insectes, aujourd'hui perdue, détruisit celle du mammouth, que l'homme appelle le colosse de la création. Dans ces marécages qui couvraient des continents entiers, il dut naître des serpents qui, en se déroulant, faisaient le tour du globe. Et les aigles de ces montagnes, infranchissables pour nos gazelles abattardies, enlevaient dans leurs serres des rhinocéros de 100 coudées. En même temps que les dragons ailés arrivaient des nuages de l'Orient, les licornes indomptables descendaient de l'Occident. Et quand une troisième race de monstres, poussée par le vent du Sud, avait dévoré les deux autres, elle périssait, gorgée de nourriture. Et l'odeur de la corruption appelait l'hyène du nord, des vautours plus grands que l'hyène et des fourmis plus grandes que les vautours. Et sur ces montagnes de cadavres, parmi ces lacs de sang livide, au milieu de ces bêtes immondes dévorées ou dévorantes, des arbres sans nom élevaient jusqu'aux nues la profusion de leurs rameaux splendides et des roses, plus belles et plus grandes que les filles des hommes ne le furent jamais, exhalaient des parfums dont s'enivraient les esprits de la terre, couverts de robes diaprées, aujourd'hui réduits à la taille du papillon et aux 3 grains d'or de l'étamine de nos fleurs. Ces volcans, ces déluges, ces cataclysmes, cet ouvrage informe du temps et de la matière, les saintes écritures l'appellent l'âge du chaos. Or, tandis que les 4 esprits se livraient la guerre, il arriva qu'ils passèrent près du char de Dieu, et frappés de terreur, ils s'arrêtèrent. Dieu les appela et leur dit : Qu'avez-vous fait ? Pourquoi ce monde que je vous ai confié marche-t-il comme s'il était ivre ? Avez-vous bu la coupe de l'orgueil ? Prétendez-vous faire les œuvres de l'Éternel ? Un esprit plus puissant que vous va se lever à ma voix. Il vous enchaînera et vous forcera à vivre en paix. L'Éternel passa. Et quand les 4 esprits virent s'effacer dans l'espace le cercle de feu que traçaient les roues de son char, ils reprirent courage et se regardant, ils se dirent : Pourquoi ne résisterions-nous pas à l'Éternel ? Ne sommes-nous pas éternels, nous aussi ? Il nous a créés, mais il ne peut nous détruire, car il nous a dit : Vous n'aurez pas de faim. L'Éternel ne peut reprendre sa parole. Il nous a donné ce monde, mais c'est nous qui l'avons couvert de plantes et d'animaux. Nous aussi, nous sommes créateurs. Unissons-nous, armons nos volcans en guerre. Que l'océan gronde, que la lave bouillonne, que la foudre sillonne les airs, et vienne l'Éternel pour nous donner des lois. » En parlant ainsi, ils cessèrent de se haïr, et, abaissant leur vol sur les montagnes les plus élevées de la terre, « Nous allons, dirent-ils, entasser ces monts les uns sur les autres, et nous atteindrons ainsi à la demeure de Dieu. » Nous le renverserons et nous régnerons sur tous les mondes. Mais, comme ils commençaient leur travail insensé, un ange, envoyé par le Seigneur, versa sur eux la coupe du mépris. et, saisis de torpeur, ils s'endormirent comme des hommes pris de vin. Et quand ils se réveillèrent, ils virent sur la mousse un être inconnu, plus beau qu'eux, quoique délicat et frêle. Sa tête n'était pas flamboyante, et son corps n'était pas couvert d'une armure d'écailles de serpent. Le ver à soie semblait avoir filé l'or de sa chevelure, et sa peau était lisse et blanche comme le tissu des lys. Les esprits étonnés l'entourèrent pour le contempler, s'émerveillant de sa beauté, et se demandant l'un à l'autre si c'était là un esprit ou un corps. Cependant, cette créature dormait paisiblement sur la mousse et les fleurs se penchaient sur elle comme pour l'admirer. Les oiseaux et les insectes voltigeaient autour d'elle, n'osant becquer ses lèvres de pourpre et formant un rideau d'ailes doucement agité entre son visage et le soleil du matin qui semblait jaloux aussi de le regarder. Alors l'esprit des eaux. Quel est celui-ci? Et qui de nous l'a produit à l'insu des autres? Si c'est de la terre qu'il est sorti, d'où vient que les vapeurs de mes rives n'en savent rien? Et où est le feu qui l'a fécondé? Est-ce une plante pour qu'il soit sans plumes et sans fourrure et sans écailles? Et si c'est une plante, d'où vient que je n'ai point arrosé son germe? D'où vient que l'air n'a pas aidé sa tige à s'élever et son calice à se colorer? Si c'est une créature, où est son créateur? Si c'est un esprit, de quel droit vient-il s'établir dans notre empire? Et comment souffrons-nous qu'il s'y repose? Enchaînons-le, et que la bouche des volcans se referme derrière lui, car il faut qu'il aille au fond de la terre et qu'il n'en sorte plus. L'esprit de la terre répondit « Ceci est un corps, car le sommeil l'engourdit et le gouverne comme les animaux. Ce n'est pas une plante, car il respire et semble destiné au mouvement comme l'oiseau ou le quadrupède. Cependant, il n'a point d'ailes et ne saurait voler. Il n'a pas les défenses du sanglier, ni les ongles du tigre pour combattre, ni même l'écaille de la tortue pour s'abriter. C'est un animal faible que le moindre de nos animaux pourrait empêcher de se reproduire et d'exister. Et puisque aucun de nous ne l'a créé, il faut que ce soit l'Éternel qui, par dérision, les fait éclore, afin de nous surprendre et de nous effrayer. Mais il suffira du froid pour lui donner la mort. Ne nous en inquiétons point, dirent les autres. Il est en notre pouvoir. Éveillons-le et voyons comme il marche et comme il se nourrit. Puisqu'il n'a ni aile, ni nageoire, ni arme d'aucune espèce pour s'ouvrir un chemin et se construire une demeure, il ne saurait vivre dans aucun élément. Et les quatre esprits de révolte se mirent à railler et à mépriser l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Alors, cet être nouveau s'éveilla, et à leur grande surprise, il ne se mit ni à fuir, ni à ramper comme les serpents, ni à marcher comme les quadrupèdes. Il se dressa sur ses pieds, et sa tête se trouvant tournée vers le ciel, il éleva son regard. Et les esprits de révolte virent dans sa prunelle étinceler un feu divin. « Quel est, dirent-ils, celui-ci, qui ne rampe ni ne vole et qui a un rayon du soleil dans les yeux? Va-t-il monter vers le ciel comme une fumée? Et d'où vient qu'avec un corps si chétif, il est plus beau que le plus beau des anges du ciel ?» Alors ils furent saisis de crainte et l'interrogèrent en tremblant. Mais cette créature ne les entendit pas. On eût dit que ses yeux ne pouvaient distinguer leur forme, car elle ne leur donna aucun signe d'attention et ne répondit rien à leurs questions. Ils se réjouirent donc de nouveau en disant « Cette bête n'a ni le sens de l'ouïe, ni le sens de la vue. Elle ne saurait faire entendre aucun cri. Elle est plus stupide que les autres bêtes. Celles-ci ne nous comprennent pas et ne nous voient pas non plus, mais l'instinct les avertit de notre présence. Et un tressaillement secret s'empare du plus petit oiseau lorsque le volcan gronde ou lorsque l'orage s'approche. L'ours et le chien s'enfuient en hurlant. Le dauphin s'éloigne des rivages et le dragon se réfugie sur les arbres les plus élevés des forêts. Mais cette bête n'a pas de sens et les polypes seuls suffiront pour la dévorer. Alors, la créature inconnue éleva la voix, une voix plus douce que celle des oiseaux les plus mélodieux. Et elle chanta un cantique d'action de grâce au Seigneur dans une langue que les esprits de révolte ne comprirent pas. Et leur colère fut grande, car ils se crurent insultés par cette langue mystérieuse, et ses accents d'amour et de ferveur remplirent leur sein de haine et de rage. Ils voulurent saisir leur ennemi. Mais l'ennemi, ne daignant pas les voir, se prosterna devant l'Éternel, puis se releva avec un front rempli d'allégresse et se mit à descendre vers la vallée sans cesser d'être debout et posant ses pieds sur le bord des abîmes avec autant d'adresse et de tranquillité que l'antilope ou le renard. Comme les pierres et les épines offensaient sa peau, il cueillit des herbes et des feuilles et se fit une chaussure avec tant de promptitude et d'industrie que les esprits de révolte prirent plaisir à le regarder. Cependant, à mesure que la créature de Dieu marchait, la terre semblait devenir plus riante et la nature se parait de mille grâces nouvelles. Les plantes exhalaient de plus doux parfums. Et la créature, comme saisie d'un amour universel, se courbait, respirait les fleurs, se penchait sur les cailloux transparents, souriait aux oiseaux, aux arbres, au vent du matin. Et le vent caressait mollement sa poitrine. Les oiseaux la suivaient avec des chants de joie. Les papillons venaient se poser sur les fleurs qu'elle leur présentait. Les arbres se courbaient vers elle et lui offraient leurs fruits à l'envi l'un de l'autre. Elle mangeait les fruits et, loin de dévorer avidement comme les bêtes, semblait savourer avec délice les sucs parfumés de l'orange et de la grenade. Une biche suivie de son faim vint à elle et lui offrit son lait qu'elle recueillit dans une conque de nacre, qu'elle porta joyeusement à ses lèvres en caressant la biche. Puis, elle présenta la coquille au faon, qui but après elle et qui la suivit ainsi que sa mère. Les esprits suivaient en silence et ne concevaient rien à ce qu'ils voyaient. Enfin, ils se réveillèrent de leur stupeur et dirent « C'est assez de nous laisser insulter par une œuvre de ténèbres et d'ignorance. » Ce vain fantôme d'ange a un corps et se repaît comme les bêtes. Il doit être, comme elles, sujet à la mort et à la pourriture. Si la biche est son faon, si l'oiseau est l'insecte, si l'arbre est son fruit, si l'herbe et la brise se soumettent à lui, voici venir le léopard et la panthère qui vont le déchirer. Mais le léopard passa sans toucher à la créature de Dieu, et la panthère, l'ayant regardée un instant avec méfiance, vint offrir son dos souple et doux à la main caressante de son nouveau maître. « Voici le serpent qui va le couvrir de morsures empoisonnées, » dirent les esprits de haine. Le serpent dormait sur le sable. La créature divine l'appela dans cette langue inconnue qu'elle avait parlé à l'Éternel. Et le serpent, déroulant ses anneaux, vint mettre sa tête humiliée sous le pied du maître, qui se détourna, sans lui faire ni mal ni injure. L'éléphant s'approchant, Les esprits espérèrent qu'il les débarrasserait de l'étranger. Mais l'éléphant, ayant pris des fruits dans sa main, le suivit, obéissant à sa parole et cueillant à son tour les fruits et les fleurs sur les branches les plus élevées pour les lui offrir avec sa trompe. Le chameau arriva et, pliant les genoux, offrit son dos à l'étranger et le porta dans la vallée. Alors les esprits, transportés de colère, s'assemblèrent sur une cime élevée. Ils réunirent leurs efforts pour créer un monstre qui surpassa en laideur, en force et en cruauté les monstres les plus hideux qu'eût produit la terre. Mais, comme le Seigneur qui jusqu'alors avait habité avec eux s'était retiré, ils ne purent rien créer d'abord. Enfin, après beaucoup de conjurations adressées aux éléments qu'ils croyaient gouverner, ils firent sortir de terre un dragon redoutable et le forcèrent avec des menaces de marcher contre la créature de Dieu. Mais celle-ci, le voyant venir, monta sur le cheval, appela l'hippopotame, le taureau et tous les animaux forts de la terre et de la mer, et les oiseaux forts du ciel, et tous se rangèrent autour d'elle comme une armée. Le cheval bondit d'orgueil sous son maître et le porta comme un roi à la rencontre de l'ennemi. Alors le dragon, épouvanté, revint vers ceux qu'il avait envoyés et leur dit « Vous voyez ce qui arrive. Toutes les créatures se rangent sous sa loi. Celui-ci est le roi de la terre et l'esprit de Dieu est en lui. » Et le dragon étendant ses ailes, l'esprit de ténèbres qui était en lui s'envola et sa dépouille, restant par terre, l'étranger la ramassa, la regarda et s'en fit un vêtement pour traverser les régions froides. Car elle continua sa course vers le nord et parcourut le monde entier, se construisant partout des chariots avec les arbres des forêts et les métaux de la terre, mangeant de tous les fruits, se faisant aimer et servir par toutes les créatures, traversant les fleuves à la nage ou sur des nacelles que son adresse improvisait, s'habituant à tous les climats, prenant son sommeil à l'ombre des forêts, à l'abri dans les grottes ou dans des tentes de feuillage qu'elle dressait au coucher du soleil, sachant tirer le feu d'un caillou ou d'une branche sèche, et partout louant l'Éternel, chantant ses bienfaits et implorant son appui. Quand cet être singulier eut fait le tour de la terre et s'y fut installé comme dans son domaine, les esprits de révolte, enchaînés jusque-là par la curiosité, résolurent de détruire ce qu'ils croyaient être leur ouvrage et de bouleverser le globe afin d'anéantir leur ennemi avec lui. « Ouvre une crevasse sous ses pieds, dirent-ils à la terre, et dévore-le dans la gueule béante de tes abîmes. » Mais la terre refusa d'obéir et répondit « Celui-ci est l'envoyé de Dieu, le roi de la création. » Ils dirent au volcan de l'envelopper d'un lac de feu et de faire pleuvoir sur lui des pierres embrasées. Mais le volcan refusa et répondit comme la terre. La mer refusa d'inonder et l'air de laisser passer la foudre. Alors les esprits virent qu'ils n'avaient plus de pouvoir et, feignant de se soumettre à l'envoyé de Dieu, ils s'offrirent au Seigneur pour être les ministres de son favori. Mais Dieu, connaissant leur dessein, répondit « La mer ne sortira plus de ses bornes. La terre ne quittera plus la voie que je lui ai tracée dans l'espace. Le soleil ne s'éteindra plus. L'air ne sera plus infecté de miasmes fétides. Vous serez enchaînés à jamais et vous obéirez en esclaves, non pas à mon envoyé, mais à l'ordre que je vous assigne et qui est ma parole, la loi éternelle de l'univers. Quant à celui-ci, que vous ne connaissez pas, c'est mon œuvre, et je l'ai faite en souriant pour vous railler et pour montrer que par vous-même, vous ne pouvez rien. Je lui ai donné les besoins des animaux. Un corps frêle, sans défense et sans vêtements. Je l'ai mise nue sur la terre. Et vous voyez qu'en un jour, elle a eu des chaussures, des vêtements, des esclaves, de quoi pourvoir à tous ses besoins et régner sur la force sans posséder la force. Vous n'avez pas compris où était sa puissance. Et voyant qu'elle n'avait les avantages naturels d'aucun animal, vous vous êtes demandé comment elle savait gouverner l'instinct de tous les animaux et leur commander. C'est ainsi que j'ai mis en elle une étincelle de mon esprit, et qu'elle est à la fois corps et intelligence, matière et lumière. Allez, et que le monde soit son héritage. Elle ne vous commandera pas, car elle pourrait, comme vous, s'enivrer d'orgueil et succomber à son tour. Allez, et sachez le nom du plus beau de mes anges. C'est l'homme. Chapitre 2. La terre devint donc l'apanage de l'homme. Il n'avait ni aile d'or, ni auréole de lumière. Il ne pouvait contempler les splendeurs du tabernacle de Jéhovah. Mais la part d'intelligence qu'il avait reçue était si grande qu'il savait toutes les merveilles de l'univers sans les avoir jamais vues, et qu'il aimait Dieu et le servait mieux que les séraphins brûlants qui environnent son trône. Son âme voyait ce que les yeux de son corps ne pouvaient apercevoir. Il devinait par la réflexion les plus profonds mystères de la nature, et sa pensée était plus rapide que l'éclair. Ce que voyant, les esprits jaloux se disaient entre eux, « Dieu a fait pour celui-ci plus que pour nous tous. Le plus petit insecte, il est vrai, s'élève plus haut que lui dans l'air qu'il respire. Mais le plus puissant des archanges ne saurait monter aussi hardiment et aussi vite dans les terres de l'immensité que l'esprit de l'homme par sa volonté. » Et Dieu, se complaisant dans son ouvrage, créa beaucoup d'autres hommes semblables aux premiers, et en couvrit la face de la terre en leur disant « La terre est à vous, cultivez-la et vivez de ses fruits, gouvernez les animaux, les espèces ne périront plus, la terre ne sera plus ravagée, les plantes et les animaux se reproduiront toujours, et vous, vous ne mourrez point. » Les hommes vivaient ensemble et ils étaient heureux. Ils ne connaissaient pas le mal et ils étaient purs, sans avoir la vanité de savoir qu'ils l'étaient, car ils l'étaient tous également. Et ils ne s'imaginaient point que la source de leur grandeur fût en eux-mêmes. Ils adoraient le Seigneur et se servaient de ses dons avec frugalité. Ils respectaient la vie des animaux et n'employaient leurs dépouilles à leur usage que lorsque les animaux mouraient selon les lois de la nature. Ils considéraient les bêtes comme des productions choisies de la matière, qui, étant douées de sensibilité et d'une sorte de volonté, avaient des droits sacrés à leur protection. Les bêtes ne s'enfuyaient pas à leur approche, et comme le chien obéit encore aujourd'hui à son maître et comprend ses ordres, le lion, le castor, et tous les autres animaux comprenaient le geste, le regard et l'autorité de l'homme. Il aidait à bâtir des maisons, des temples, à exécuter des migrations sur les continents, à cultiver la terre, à travailler les métaux et à les façonner, non en vile monnaie ou en armes cruelles, mais en instruments de travail et en ornements pour les temples. Or, tout était commun parmi les hommes, le travail et les fruits de la terre. Ils se regardaient tous comme vivants sous la volonté de Dieu, chargés de veiller à l'équilibre de cette nature dont ils étaient rois. Ils s'occupaient sans cesse à réparer les ravages des précédents cataclysmes, à dessécher les marais fétides qui corrompaient l'air et engendraient trop de reptiles et d'insectes, à ouvrir des canaux pour l'écoulement des lacs et des étangs, à rassembler en troupeau les animaux trop nombreux sur certains points du globe et à les conduire vers d'autres régions désertes, à distribuer de même la végétation selon les climats qui lui convenaient. Car avant l'homme, la matière livrée à sa vorace faculté de produire s'épuisait sans cesse et, renaissant de ses propres débris, offrait partout des ruines auprès des créations nouvelles. Cet homme, que les esprits des terribles éléments avaient pris d'abord pour un souffle débile dans le corps d'une bête avortée, devint donc, sans autre magie et sans autre prestige que sa patience et son industrie, plus puissant que les éléments eux-mêmes. La terre fut bientôt un jardin si beau et si fécond que les anges du ciel venaient s'y promener, et ne pouvant converser directement avec les hommes, parce que Dieu l'avait défendu, ils chantaient doucement dans les brises et dans les flots, et les hommes les voyaient alors en songe avec les yeux de l'âme. Mais il arriva que la terre étant pacifiée et embellie, et l'ordre des saisons réglé, le travail devint moins actif. Les hommes eurent plus de temps à donner à la prière et à la méditation. Leur nombre n'augmentait pas et ne diminuait pas. Il avait été calculé par l'Éternel pour opérer les grands travaux qui se terminaient maintenant. Et l'esprit humain commençait à souffrir de sa propre force et à désirer quelque chose au-delà de ce qu'il possédait. Les hommes voulaient, pour faire cesser leur inquiétude, que Dieu leur accordât un don, mais ils ne savaient lequel, car ils ne souffraient que parce qu'ils ne manquaient plus de rien. Leur sommeil devint moins paisible. Durant les belles nuits d'été, ils s'asseyaient par groupes sur les hauteurs, et au lieu de contempler avec bonheur, comme autrefois, le cours des astres et la beauté de la voûte céleste, ils soupiraient tristement, et dans leurs cantiques éplorées, ils demandaient à Dieu de faire cesser leur ennui. Alors, il y en eut qui dirent : les bêtes souffrent les maladies du corps et elles meurent. Les hommes ne sont pas soumis aux maux de la chair et ne meurent pas. Bénissons Dieu. Mais l'esprit de l'homme souffre une douleur dont il ne sait pas le remède. Demandons à Dieu qu'il nous ôte la réflexion et nous laisse seulement l'intelligence nécessaire pour commander aux animaux. Mais cet avis fut combattu par quelques-uns qui considéraient la richesse de leur intelligence comme ce qu'ils avaient de plus précieux au monde. Il y en eut alors d'autres qui s'avisèrent d'un désir plus noble et dirent : nous avons comparé le sommeil paisible des bêtes aux aspirations de nos veilles brûlantes, et nous avons découvert les causes de nos ennuis. Dépêchons les oiseaux en messagers aux hommes de tous les pays. Et quand la foule accourue de toutes parts se fut réunie autour de ces sages, debout sous les portiques des temples, ils parlèrent ainsi. Le malheur de l'homme ne vient pas d'une cause accidentelle. Cette cause est son organisation défectueuse et le triste destin qu'il accomplit dans l'univers. C'est un être borné dans ses jouissances, quoique infini dans ses désirs. Il souffre et ne sait comment se guérir. Cela est injuste, car les animaux connaissent la plante qui doit leur rendre l'appétit lorsqu'ils l'ont perdue, et l'âme de l'homme ne peut embrasser le but de ses vagues désirs. Mais ce n'est pas le seul avantage que les bêtes aient sur nous. Elles sont divisées en sexes différents. C'est pourquoi elles se cherchent, se rapprochent et s'unissent dans une extase qui les élève au-dessus d'elles-mêmes et qui nous est inconnue. Le charme qui les attire est si puissant qu'il n'est aucune caresse, aucune menace de l'homme, aucun attrait de la gourmandise, aucune injonction de la faim qui les empêchent de courir au fond des bois et des vallées à la suite les unes des autres. Le tigre ou le lion, enfermé loin de sa compagne, se couche en rugissant et semble renoncer à la vie, car il refuse toute nourriture. Le cheval séparé de la cavale, le taureau de la génisse au temps de leurs amours, deviennent indociles et brisent les chariots. Tous devinent l'approche de leur compagne. Le loup sent venir la louve du fond des forêts ténébreuses. Le chien hurle et tressaille à l'arrivée de la lys sans la voir ni l'entendre. L'oiseau sait se frayer une route au travers des plaines immenses de l'air pour aller rejoindre sa compagne. Il n'a vu qu'un point noir vers l'horizon et pourtant il ne se trompe pas. L'ibis ne court point après la grue, ni le chardonneret après la mésange. Qui donc leur enseigne ces merveilleux instincts qui ne sont pas donnés à l'homme? C'est l'amour qu'ils ont pour un sexe différent du leur. Quant à nous, nous ne connaissons pas ces sublimes extases, ces transports de joie et ces caresses enivrantes. Nous aimons à converser ensemble, à partager nos repas, mais cette amitié n'est pas assez puissante pour que la séparation soit désespérée, ni pour que le battement du cœur nous annonce l'approche de l'ami absent. Nous n'avons que des peines légères et des joies tièdes. Dieu seul, Dieu, notre immortel principe, nous ravit d'une joie inaccoutumée. Mais pouvons-nous toujours penser à lui? Sa grandeur que nous adorons nous défend-elle de comparer notre destinée à celle des autres créatures et de leur envier les biens que nous n'avons pas? D'autres hommes se levèrent à leur tour et dirent « Les bêtes ont encore un avantage que nous n'avons pas. Elles se reproduisent d'elles-mêmes. Elles donnent la vie à des créatures de leur espèce, qui sont leur chair et leur sang. Il y a plusieurs siècles, avant que la terre fût tranquille et féconde, la reproduction nous semblait une tâche pénible, un sceau de misère imprimé à la matière. Nous avions compassion de la jument obligée de porter son fruit dans son flanc durant le cours de deux lunes, de la perdrix forcée de couver patiemment ses œufs et de les féconder par la chaleur de son sein. Nous pensions que l'homme avait assez de cultiver la terre et de protéger les animaux. Que Dieu, dans sa sagesse, l'avait dispensé du rude travail de la génération et lui avait donné l'immortalité, la jeunesse et la santé éternelle pour marquer sa royauté sur la terre. Mais aujourd'hui, nos grands travaux sont accomplis. Les animaux, libres et paisibles sous notre domination, s'aiment avec plus de bonheur encore, et nous voyons en eux des joies et des forces que nous n'avons pas. Nous admirons le soin avec lequel l'hirondelle nourrit sa compagne accroupie sur ses œufs. Nous admirons la mer qui décrit de grands cercles dans les cieux pour attraper une pauvre mouche dont elle se prive afin de la porter à ses enfants. Car les oiseaux à cette époque sont maigres et malades, mais le gazouillement de leurs oisillons semble les réjouir plus que toutes les graines d'un champ, et plus encore peut-être que les caresses de l'amour. Les plus faibles créatures acquièrent alors une folle audace pour la défense de ce qu'elles ont de plus cher. La brebis défend son agneau contre le loup, et la poule, cachant ses poussins sous son aile, grousse avec colère quand le renard approche. C'est elle qui meurt la première, et l'ennemi est forcé de passer sur son cadavre pour s'emparer de la famille abandonnée. Tout cela n'était pas digne d'admiration. Et s'il y a des fatigues et des douleurs attachées à ces devoirs, n'y a-t-il pas des ravissements et des émotions qui les rachètent? Quand ce ne serait que pour chasser l'ennui que nous éprouvons, ne devrions-nous pas les demander à Dieu? Quand cela eurent dit, il y en eut d'autres qui répondirent « Avez-vous songé à ce que vous proposez? Si l'homme se reproduisait sans cesser d'être immortel, la terre, ne pourrait bientôt lui suffire. Voulez-vous accepter la maladie, la vieillesse et la mort en échange des biens et des maux dont vous parlez? Lequel de nous peut concevoir l'idée de mourir? N'est-ce pas demander à Dieu qu'il fasse de nous la dernière créature du monde? Lequel de nous voudra renoncer à être ange? Nous ne sommes pas des anges, reprirent les premiers. Les anges que nous voyons dans nos rêves ont des ailes pour parcourir l'immensité. Et quoiqu'ils se révèlent à nous sous une forme à peu près semblable à la nôtre, cette forme n'est pas saisissable. Nous ne pouvons les retenir au matin lorsqu'ils s'éloignent. Nous embrassons le vide, ils nous échappent, comme notre ombre au soleil. Ils n'ont de commun avec nous que l'esprit, lequel n'est que la moitié de nous-mêmes. Nous appartenons à la terre, où notre corps est à jamais fixé. Si nous sommes condamnés à la misère d'exister corporellement, pouvons-nous, sans injustice, être privés des avantages accordés aux autres animaux? Pourquoi serions-nous imparfaits, déshérités du bonheur qui leur est échu? Ces différents avis excitèrent dans l'esprit des hommes une douloureuse inquiétude. Les uns pensaient qu'en effet, la partie physique était incomplète chez eux. Les autres répondaient que l'immortalité, l'absence de maladie et de caducité étaient des compensations suffisantes à cette absence de sexe. Et en effet, rien n'était plus suave et plus paisible en ce temps-là que le sort de l'homme. N'éprouvant que des besoins immédiatement satisfaits par la fécondité de la terre et la liberté commune, la faim, la soif et le sommeil étaient pour lui une source de jouissance douce et jamais de douleur. La privation était inconnue. Aucun despotisme social n'imposait les corvées et la fatigue. Il n'y avait ni larmes, ni jalousie, ni injustice, ni violence. Rien n'était un sujet de rivalité ou de contestation. L'abondance régnait avec l'amitié et la bienveillance. Mais cette secrète inquiétude qui est la cause de toutes les grandeurs et de toutes les misères de l'esprit tourmentait presque également ceux qui désiraient un changement dans leur sort et ceux qui le redoutaient. Alors, les hommes firent de grandes prières dans les temples et ils invoquèrent Dieu afin qu'il daignât se manifester. Mais l'Éternel garda le silence, car il veut que les hommes et les anges soient librement placés entre l'erreur et la vérité. Autrement, l'ange et l'homme seraient Dieu. Chapitre 3. Mais comme le cœur de l'homme était humble et doux en ce temps-là, la sagesse éternelle fut touchée, car les hommes ne disaient pas « Il nous faut cela, fais-le », mais ils disaient « Tu sais ce qui nous convient, sois béni », et ils souffraient sans blasphémer. La sagesse, la miséricorde et la nécessité, les trois essences infinies du Dieu vivant, tinrent conseil dans le sein de l'Éternel. Et comme il fallait que l'homme connût l'amour ou la mort, la matière ne pouvant se reproduire indéfiniment, l'Esprit Saint dit par la bouche de la sagesse « Livrons l'homme aux chances de sa destinée, que sa vie sur la terre soit éphémère et douloureuse, qu'il connaisse le bien et le mal, et qu'entre les deux, il soit libre de choisir. » Alors, le Verbe de miséricorde ajouta que dans la douleur, il est pour remède l'espérance, et dans le bonheur, pour loi, la charité. Jéhovah envoya donc ses anges sur la terre en leur disant qu'il soit fait à chaque homme selon son désir. Et l'ange, étant entré la nuit dans la demeure des hommes Et au nom de l'Éternel, ayant interrogé leurs pensées, il n'en trouva qu'un seul qui désira l'amour et qui accepta la mort sans crainte. C'était un de ceux qui n'avaient jamais rien demandé au Seigneur. Il vivait retiré sur une montagne, occupé le soir à contempler les étoiles et le jour à nourrir les chevrettes et les chamois. C'était une âme forte et un des plus beaux parmi les anges terrestres. L'ange du sommeil l'appela et lui dit comme aux autres hommes, « Fils de Dieu, demandes-tu la fille de Dieu ?» Et cet homme, au lieu de répondre en frissonnant comme les autres, « Que la volonté de Dieu soit faite !» s'écria en se soulevant sur sa couche, « Où est la fille de Dieu ?» L'ange répondit, « Sors de ta demeure, tu la trouveras au bord de la source. Elle vient vers toi. Elle vient du sein de Dieu. » Alors l'ange disparut, et l'homme, s'étant levé plein de surprise, se sentit accablé d'une grande tristesse, car il pensa que c'était un vain songe et que la fille de Dieu n'était pas au bord de la source. Cependant, il se leva et sortit de sa demeure, et il trouva la fille de Dieu qui marchait vers lui, mais qui, le voyant venir, s'arrêta tremblante au bord de la source. Et comme la nuit était sombre et qu'il distinguait à peine une forme vague, il lui dit, « Êtes-vous la fille de Dieu ?»« Oui, répondit-elle, et je cherche le Fils de Dieu. »« Je suis le Fils de Dieu, reprit l'homme. » Vous êtes ma sœur et mon amour. Que venez-vous m'annoncer de la part de Dieu ? Rien, répondit la femme, car Dieu ne m'a rien enseigné, et je ne sais pourquoi il m'envoie. Il y a un instant que j'existe, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Fille de Dieu, va sur la terre, et tu trouveras le Fils de Dieu qui t'attend. » J'ai reconnu que c'était la voix de l'Éternel et je suis venue. L'homme lui dit, « Suis-moi, car tu es le don de Dieu, et tout ce qui m'appartient t'appartient. » Il marcha devant elle, et elle le suivit jusqu'à la porte de sa demeure, qui était faite de bois de cèdre et recouverte d'écorce de palmier. Il y avait un lit de mousse fraîche. L'homme cueillit les fleurs d'un rosier qui tapissait le seuil, et, les effeuillant sur sa couche, il y fit asseoir la femme en lui disant « L'Éternel soit béni ». Et allumant une torche de mélèze, il la regarda et la trouva si belle qu'il pleura. Et il ne sut quelle rosée tombait de ses yeux, car jusque-là, l'homme n'avait jamais pleuré. Et l'homme connut la femme dans les pleurs et dans la joie. Quand l'étoile du matin vint à pâlir sur la mer, l'homme s'éveilla. Il ne faisait pas encore jour dans sa demeure. Se souvenant de ce qui lui était arrivé, il n'osait point tâter sa couche, car il craignait d'avoir fait un rêve, et il attendit le jour, désirant et redoutant ce qu'il attendait. Mais la femme qui s'était éveillée lui parla. Et sa voix fut plus douce à l'homme que celle de l'alouette qui venait chanter sur sa fenêtre au lever de l'aube. Mais aussitôt, il se mit à verser des pleurs d'amertume et de désolation. Ce que voyant, elle pleura aussi et lui dit « Pourquoi pleures-tu ? » « C'est, dit l'homme, que je t'ai et que bientôt je ne t'aurai plus car il faut que je meure. C'est à ce prix que je t'ai reçu de l'Éternel. Avant de te voir, je ne m'inquiétais pas de mourir. La faiblesse et la peur sont entrées en moi avec l'amour. Car tu vaux mieux que la vie, et pourtant je te perdrai avec elle. » La femme cessa de pleurer, et avec un sourire qui fit passer dans le cœur de l'homme une espérance inconnue, elle lui dit, « Si tu dois mourir, je mourrai aussi. Et j'aime mieux un seul jour avec toi que l'éternité sans toi. » Cette parole de la femme endormit la douleur de l'homme. Il courut chercher des fruits et du lait pour la nourrir et des fleurs pour la parer. Et dans le jour, quand il se remit au travail, il planta de nouveaux arbres fruitiers en songeant au surcroît de besoin que la présence d'un nouvel être apportait dans sa retraite, sans songer qu'un arbre serait moins prompt à grandir que lui et la femme à mourir. Cependant, le souci avait pénétré chez lui avec la femme. La pensée de la mort empoisonnait toutes ses joies. Il priait Dieu avec plus de crainte que d'amour. Les moindres bruits de la nuit l'effrayaient, et au lieu d'écouter avec une religieuse adoration les murmures des grandes mers, il tressaillait sur son lit comme si la voix des éléments eût pleuré à son oreille, comme si les oiseaux de la tempête lui eussent apporté des nouvelles funèbres. La femme était plus courageuse ou plus imprévoyante. Ses faibles membres se fatiguaient vite, et quand son époux trouvait dans le travail une excitation douloureuse, elle s'étendait nonchalante sur les fleurs de la montagne et s'endormait dans une sainte langueur en murmurant des paroles de bénédiction pour son époux et pour son Dieu. Elle ne savait rien des choses de la terre où elle venait d'être jetée. Elle trouvait partout de la joie et ne s'effrayait de rien. La brièveté de la vie, si terrible pour l'homme, lui semblait un bienfait de la Providence. L'homme la contemplait chaque jour, avec une surprise et une admiration nouvelles. Il la regardait comme supérieure à lui, malgré sa faiblesse. Et souvent, il lui disait « Tu n'es pas ma sœur, tu n'es pas ma femme. Tu es un ange que Dieu m'a envoyé pour me consoler et qu'il me reprendra peut-être dans quelques jours, car il est impossible que tu meures. Une si belle créature ne peut pas être anéantie. Promets-moi que si tu me vois mourir, tu retourneras aux cieux pour n'appartenir à personne après moi. » Et elle promettait en souriant tout ce qu'il voulait, car elle ne savait pas si elle était immortelle, et elle ne s'en inquiétait pas pourvu que son époux lui répétât sans cesse qu'il l'aimait plus que sa vie. Or, il vivait sur une montagne élevée, loin des lieux habités par les autres hommes, car l'époux de la femme, tourmenté de crainte, avait transporté sa demeure et ses troupeaux dans le désert, afin de mieux cacher le trésor qui faisait son bonheur et ses angoisses. « Je ne comprends pas, lui disait-il, le sentiment que vous m'avez inspiré pour mes frères. Je les chérissais avant de vous connaître, et malgré mon goût pour la solitude, j'aurais tout partagé volontiers avec eux. Quand je descendais dans la vallée, au jour de fête, leur vue réjouissait mon âme, et je priais avec plus de ferveur, prosterné au milieu d'eux dans le temple. Aujourd'hui, leur approche m'est odieuse, et quand je les vois de loin, je me cache, de peur qu'ils ne m'abordent et ne cherchent à pénétrer au lieu où vous êtes. À la seule idée qu'un de mes frères pourrait vous apercevoir, je frissonne comme si l'heure de ma mort était venue. L'autre jour, j'ai vu près d'ici la trace d'un pied humain sur le sable, et j'aurais voulu être un rocher pour attendre au bord du sentier l'audacieux qui pouvait revenir et l'écraser à son passage. Mais hélas, ajoutait-il, les autres hommes sont immortels, et seul je puis craindre la chute d'un rocher. Si je tombais dans un précipice, vous descendriez dans la vallée pour être nourri et protégé par un autre homme, et vous m'auriez bientôt oublié, car il n'est pas un de ces immortels qui ne fit le sacrifice de son immortalité pour vous posséder. C'est pourquoi, malgré mon amour pour vous, je ne puis m'empêcher de désirer que la mort vous atteigne aussitôt que moi. » Et la femme lui répondait : « Si tu tombais dans un ravin, je m'y jetterais après toi. Et si Dieu me refusait la mort, je mutilerais mon corps et je détruirais ma beauté pour ne pas plaire à un autre. » Lorsque la femme mit au monde son premier-né, il lui sembla que sa mort était proche, car elle sentait de grandes douleurs. Et comme son époux criait avec angoisse vers le Seigneur, elle lui dit « Ne pleurez point et réjouissez-vous, car mon corps se brise et mon âme est heureuse de ce qui m'arrive. Je sens que je ne suis pas immortelle et que je ne resterai pas sans vous sur la terre. » L'époux de la femme fut rencontré dans les montagnes par quelques-uns de ses frères, et ceux-ci virent qu'il était pâle et maigri, et qu'une singulière inquiétude était répandue sur sa figure. Ils racontèrent ce qu'ils avaient vu, et comme jusque-là les fatigues et l'ennui n'avaient point été assez rudes à l'esprit de l'homme pour que son corps indestructible pût en recevoir une telle altération, chacun s'étonna de ce qu'il entendait de la bouche de ses témoins, comme s'ils eussent annoncé l'apparition d'une nouvelle race dans le monde ou une perturbation dans l'ordre de la nature. Plusieurs, entraînés par la curiosité, s'enfoncèrent dans les montagnes pour chercher leur frère. Mais il avait si bien caché sa demeure derrière les lianes des forêts et les pics des rochers qu'il se passa plusieurs années avant qu'on le découvrit. Enfin, il fut rencontré, et ceux qui le virent s'écrièrent « Homme, quel mal as-tu fait pour être ainsi vieilli et malade comme les animaux périssables ?» Il répondit « Je ne ressemble pas à mes frères, mais je n'ai fait aucun mal, et Dieu m'a visité et révélé plusieurs secrets que je vous enseignerai. » Il parlait ainsi pour donner le change à leur curiosité, et pendant la nuit, il essaya de transporter sa famille dans un lieu plus inaccessible encore. Mais le jour le surprit avant qu'il fût parvenu à sa nouvelle retraite, et il fut rencontré avec sa femme, montée sur un âne sauvage, et ses enfants, dont le plus jeune était dans ses bras. À cette vue, les voyageurs se prosternèrent. La femme leur parut si belle qu'ils la prirent pour un ange. Et malgré la résistance de l'époux, ils l'entraînèrent dans la vallée, la firent entrer dans le temple, et lui élevant un autel, ils l'adorèrent. Ce fut la première idolâtrie. L'époux espérait que le respect les empêcherait de convoiter cette femme. Mais elle, craignant d'offenser le Seigneur, brisa les liens de fleurs dont on l'avait enlacée et tomba dans les bras de son époux en s'écriant « Je ne suis point une divinité, mais une esclave de Dieu, une créature périssable et faible. La femme est la sœur de cet homme. Je lui appartiens parce que Dieu m'a envoyée vers lui. Si vous essayez de m'en séparer, je me briserai la tête contre cet autel, et vous me verrez mourir car je suis mortelle, et mon époux l'est aussi. » À ces mots, les voyageurs éprouvèrent une émotion inconnue et furent saisis d'une sympathie étrange pour ces deux infortunés. Comme ils étaient bons et justes, ils respectèrent la fidélité de la femme. Ils la contemplèrent avec admiration, prirent ses enfants dans leurs bras et, ravis de leur beauté délicate et de leurs naïves paroles, ils se mirent à les aimer. Alors, le peuple immortel tombant à genoux s'écria « Dieu, ôte-nous l'immortalité et donne à chacun de nous une femme comme celle-ci. Nous aimerons ses enfants et nous travaillerons pour notre famille jusqu'à l'heure où tu nous enverras la mort. Nous te bénirons tous les jours si tu exauces notre vœu. » La voûte du temple fut enlevée par une main invisible. Un escalier ardent, dont chaque marche était une nuance de l'arc-en-ciel, parut se dérouler du ciel jusqu'à la terre. Du sommet invisible de cet escalier, on vit descendre des formes vagues et lumineuses, qui, peu à peu, se dessinèrent en se rapprochant. Des cœurs de femmes, plus belles que toutes les fleurs de la terre et toutes les étoiles des cieux, remplirent le sanctuaire en chantant. Un ange était venu s'abattre sur le dernier degré. Et à chaque femme qui le franchissait, il appelait un homme qu'il choisissait selon les desseins de Dieu et mettait la main de l'époux dans la sienne. Quelques hommes, cependant, voulurent conserver leur immortalité. Mais l'amour de la femme était si enivrant et si précieux qu'ils ne purent résister au désir de le goûter et qu'ils essayèrent de séduire les femmes de leurs frères. Mais ils moururent de mort violente. Dieu les châtia, afin que le premier crime commis sur la terre n'eût point d'imitateur. Pendant longtemps, malgré les souffrances de cette race éphémère, l'âge d'or régna parmi les hommes et la fidélité fut observée entre les époux. Mais peu à peu, le principe divin et immortel qui avait animé les premiers hommes s'affaiblissant de génération en génération, l'adultère, la haine, la jalousie, la violence, le meurtre et tous les maux de la race présente se répandirent dans l'humanité. Dieu fut obligé de voiler sa face et de rappeler à lui ses anges. La providence devint de plus en plus mystérieuse et muette, la terre moins féconde, l'homme plus débile, et sa conscience plus voilée, plus incertaine. Les sociétés inventèrent pour se maintenir des lois qui hâtèrent leur chute. La vertu devint difficile et se réfugia dans quelques âmes choisies. Mais Dieu infligea pour châtiment éternel à cette race perverse le besoin d'aimer. À mesure que les lois, plus absurdes ou plus cruelles, multipliaient l'adultère, l'instinct de mutuelle fidélité devenait de jour en jour plus impérieux. Aujourd'hui encore, il fait le tourment et le regret des cœurs les plus corrompus. Les courtisanes se retirèrent au désert pour pleurer l'amour qu'elles n'ont plus droit d'attendre de l'homme et le demandent à Dieu. Les libertins se désolent dans la débauche et appellent avec des sanglots furieux une femme chaste et fidèle qu'ils ne peuvent trouver. L'homme a oublié son immortalité. Il s'est consolé de ne plus être l'égal des anges, mais il ne se consolera jamais d'avoir perdu l'amour, l'amour qui avait amené la mort par la main, et si beau qu'il avait obtenu grâce par la laideur de cette sœur terrible. Il ne sera guéri qu'en le retrouvant. Car écoutez les Juifs, ils disent que la femme a apporté en dot le péché et la mort. Mais ils disent aussi qu'au dernier jour, elle écrasera la tête du serpent, qui est le génie du mal. Comme Mirza achevait les derniers versets de son poème, des prophètes austères, qui l'avaient entendu, dirent au peuple assemblé autour d'elle, « Lapidez cette femme impie. Elle insulte à la vraie religion et à toutes les religions en confondant sous la forme allégorique les dogmes et les principes de toutes les genèses. Elle joue sur les cordes de son luth avec les choses les plus saintes et la poésie qu'elle chante est un poison subtil qui égare les hommes. Ramassez des pierres et lapider cette femme de mauvaise vie qui ose venir ici, prêcher les vertus qu'elle a foulées aux pieds. Lapidez-la, car ses lèvres souillées profanent les noms de divinité et de chasteté. » Mais le peuple refusa de lapider Mirza. « La vertu, répondit un vieux prêtre d'Esculape, est comme la science. Elle est toujours belle, utile et sainte, quelle que soit la bouche qui l'annonce. Et nous tirons des plantes les plus humbles que chaque jour le passant foule sur les chemins, un baume précieux pour les blessures. Laissez partir cette sibylle. Elle vient souvent ici. Nous la connaissons et nous l'aimons. Ces fictions nous plaisent, à nous, vieux adorateurs des puissants dieux de l'Olympe. Et les jeunes partisans des religions nouvelles y trouvent un fond de saine morale et de douce philosophie. Nous l'écoutons en souriant, et nos femmes lui font d'innocents présents de jeunes agneaux et de robes de laine sans tache. Qu'elles partent et qu'elles reviennent, nous ne la maudissons point. Et si ses voix sont mauvaises, que Minerve les redresse et l'accompagne. Mais nous parlons au nom de la vertu, reprirent les prophètes. Nous avons fait serment de ne jamais connaître un embrassement féminin. Hier, interrompit une femme, d'autres prophètes nous engageaient, au nom de je ne sais quel nouveau dieu, à nous abandonner à notre appétit. Et la veille, d'autres nous disaient d'être esclaves d'un seul maître. Les uns fixent la chasteté d'une femme au nombre de 7 maris. Les autres veulent qu'elle n'en ait point. Nous ne savons plus à qui entendre. Mais ce que dit cette Mirza nous plaît. Elle nous amuse et ne nous enseigne point. Que ses fautes soient oubliées et qu'elle soit vêtue d'une robe de pourpre pour être conduite au temple du destin, qui est le dieu des dieux. Et comme les disciples des prophètes furieux s'acharnaient à la maudire et ramassaient de la boue et des pierres, le peuple prit parti pour elle et voulut la porter en triomphe. Mais elle se dégagea et, montant sur le dromadaire qui l'avait amenée, elle dit à ce peuple en le quittant « Laissez-moi partir, et si ces hommes vous disent quelque chose de bon, écoutez-le et recueillez-le de quelque part qu'ils viennent. Pour moi, je vous ai dit ma foi, c'est l'amour. Et voyez que je suis seule, que j'arrive seule et que je pars seule. » Alors, Mirza répandit beaucoup de larmes et elle ajouta « Comprenez-vous mes pleurs ? Et savez-vous où je vais ?» Et elle s'en alla par la route qui mène au désert de Thébaïde.